France Culture.
Max, une ode à la vie, Alain Lefkovitch, Guillaume Baldi. Il s'appelle Max, il est originaire de Haute-Savoie, c'est un beau jeune homme de près d'un mètre 80, aux yeux d'un bleu abyssal, une tignasse épaisse, châtain clair. Et son histoire, c'est celle d'une bascule pour tout le petit monde qui l'entoure. François et Anne, ses parents, Léo, son frère, Louis et Théo, ses plus vieux amis, et Alix, sa belle-mère.
Moi, c'est Max. Je commence par mon âge, ouais, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis coutelier à Thiers dans une super entreprise. Je suis toujours en train d'apprendre parce que c'est une entreprise avec un niveau de qualité très exigeant, donc on apprend tout le temps et ça fait pas longtemps que je fais ça et ça me plaît vraiment beaucoup. Après un petit stage chez un coutelier en découverte là, sur 3 jours, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et il m'a dit que si je voulais revenir un moment plus longtemps, qu'il me prenait comme ça et donc ça a continué à me motiver. Et donc voilà, maintenant, mon boulot, c'est d'être coutelier ici. Je vois mes amis à Lyon, ça me fait un bon rythme. Comme ça, c'est un rythme qui me va bien la moitié du temps, un peu à la campagne, un peu perdu ici, comme vous avez vu. Et puis, pas la moitié, mais assez souvent, je vais à Lyon voir les potes, avec un rythme un peu plus urbain. Moi, ça me va bien d'alterner un peu comme ça. Depuis assez petit, on s'était mis à la photographie animalière avec mon frère. Et donc la photo animalière, c'est aller passer le plus longtemps possible dans la forêt pour essayer de voir les animaux, trouver les endroits où ils passent, attendre qu'ils arrivent. Et moi, c'est ce qui me plaisait, surtout dans le Jura, parce que dans le Jura, il y a le lynx. Par ce biais-là, j'ai rencontré un super ami qui est peintre animalier en Suisse, qui s'appelle Jacques Rime, et qui m'a mis sur la piste du lynx, qui m'a montré un peu comment le chercher, comment connaître un peu ses habitudes, tout ça. C'est une traque, le lynx, enfin c'est... Et puis j'adorais ces moments-là, aller me poser dans la forêt, trouver les endroits un peu où il passe, suivre ses traces dans la neige quand on arrive à en trouver, et puis de l'attendre, espérer qu'il passe, il passe jamais, mais avec un peu de chance il peut passer. Ça m'est arrivé 3 fois en tout de le voir, en 6 ou 7 ans, à passer, pas tous les week-ends, mais presque une ou deux nuits dans le Jura. Puis c'est des super moments, on est dans la forêt ou dans un champ en lisière, il peut faire froid dans la pluie ou quoi, mais dans la neige même, on se demande ce qu'on fait là, mais on est bien, et puis c'est cool, le moment est cool. Et puis si en plus on arrive à avoir une ou deux photos sympas, c'est ça le rêve. Moi, quand j'étais petit, mon rêve pendant longtemps, c'était de faire fermier. Moi, je voulais devenir fermier, parce que quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps dans les fermes. Il y avait un fermier qui me prenait souvent dans son tracteur. Moi, j'attendais à côté du champ pour qu'il me prenne. Mon rêve un peu plus tard, c'était d'avoir mon petit chalet en montagne, mes deux vaches, et puis de vivre tout seul comme ça. Avec mes deux vaches dans la montagne. Et bien, c'était un peu le rêve que j'imaginais pour quand je serais plus vieux. Après, c'était un rêve un peu lointain. Je me doutais bien qu'il y aurait d'autres trucs avant d'arriver là, mais c'était un peu comme ça que j'imaginais la suite, enfin, dans longtemps. Ouais. En fait, c'était quand j'étais à la fac à Lyon. En géographique, ça m'a pas plu du tout, enfin, ça m'a pas plu. Et donc, je me suis dit que la nature allait plutôt rester une passion, enfin, puis pas forcément dans mon métier. Puis, et donc, en fait, à ce moment-là, quand j'étais à la fac, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Et pour me rapprocher un peu de ce rêve du chalet en montagne, quoi, j'allais faire charpentier. Je m'étais inscrit chez les compagnons, j'avais trouvé l'employeur pour l'alternance. Et c'était un peu un retour en Haute-Savoie, là où j'avais grandi. Ça m'aurait beaucoup changé de ma vie à Lyon. Ça, c'est... Je ne sais pas du tout ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas eu l'accident, parce que là, à ce moment-là, au moment où je parle, là, j'aurais été charpentier en Haute-Savoie. Je ne sais pas où c'est que j'aurais habité. Mon accident, c'était au mois de mai, le 14 mai 2021. J'avais 20 ans et on faisait c'était la sortie vélo avec mon club.
C'était un, je crois, je sais plus, c'était un jeudi ou un vendredi. Puis il y avait des copines de ma copine qui étaient à la maison. On se prépare à faire un apéro comme ça. Puis je me dis, bon, bah, je vais acheter des bières à l'épicerie à côté. Là, c'était, j'avais des bières à la main. Enfin, c'était pas du tout. C'était la chute ou quoi? La chute, ouais.
Le jour de l'accident, donc moi je bossais, j'avais pas de retour sur le. Il était déjà un peu tard dans l'après-midi. Max m'avait pas dit que la sortie était terminée, etc. Ça, je trouvais ça un petit peu inquiétant. Et puis après, bah, c'est le coup de fil, hein. C'est le coup de fil, voilà, vous êtes le père de Max Mérotte. Il y a un accident très grave, il faut descendre. Donc.
Je crois que c'était toi, papa. Ouais, c'était toi. J'entendais rien, c'était. Mon attel, il est pourri, il y a un son pourri. Je comprenais pas, c'était flou, je captais pas du tout ce qui se passait. Du coup, je sors de l'endroit, je pose tout ce que j'avais, j'ai rien pris, bien sûr. Je sors de cette épicerie, je rappelle, et puis là, je comprends que bah, c'est extrêmement grave et bah, j'ai un peu un blackout en fait. Je suis rentré à pied jusqu'à la maison, en courant, je crois, je sais plus. Tu comprends pas ce qui se passe. Je crois que c'est toi, papa, que j'avais en téléphone en fait. Puis tu dis, bah voilà, je pars, on part direct. Et bah après, tu m'as pris à. Enfin, on s'est dit, on se rejoint au parking là. Du coup, je suis allé à vélo, je crois. Je crois que j'étais à vélo, ouais. Je l'ai cadenassé après, je sais plus. Je crois que c'était ça. Et je me rappelle, soit c'était à vélo, soit à pied, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai parcouru le truc à toute vitesse, genre. Et puis on est arrivé, puis on s'est effondré sur le parking. Enfin, c'était tout allait tellement vite et sans aucune compréhension de ce qui se passe en fait. On n'avait pas de détails quoi, on savait juste qu'il y avait un gros problème.
François m'a appelé, son papa, pour me dire que Max avait eu un accident l'après-midi. Et on devait rappeler le CHU de Nîmes. Et donc, c'est moi qui ai eu le médecin la première, le réanimateur. Et j'ai pris un papier, j'ai noté. Et j'ai compris, évidemment, que c'était gravissime. Ce papier, je crois que je l'ai gardé. Qui a fait comprendre que la moelle épinière était touchée. Et que la tête était touchée. Voilà. Après, je me suis dit, je crois que c'est ça qu'on appelle être entre la vie et la mort, et pronostic vital engagé. Je ne sais même pas si c'est ça, mais j'ai compris que c'était. On a compris tout de suite que c'était très très grave. Et je t'ai eu, François, juste après. C'est ça que je t'ai dit, en fait, que j'avais compris que c'était gravissime.
Et après, on a fait le trajet en voiture. Moi, je disais rien. À partir de là, je suis devenu mutique pendant plusieurs jours. Enfin, j'ai quasiment pas parlé, en fait. Je me suis vraiment renfermé sur moi-même, avec mes émotions et tout. Puis voilà, quoi. Après, bah, ça a commencé des journées très compliquées, mais voilà. Pour la nouvelle.
En fait, le jour de mon accident, je me souviens de rien. Et en fait, la seule cause qui m'a fait tomber, comme je me souviens pas et personne n'a vu, c'est la route qui avait des bosses à cause des arbres. Et donc moi, je me souviens de rien. C'est aussi pour ça que je comprenais pas quand je me suis réveillé en réa. J'avais pas de moindre souvenir de ce qui s'était passé. Mon vélo, lui, il a rien. Il y a que mon casque qui est tout cassé, mais le vélo, il avait rien. C'est un des trucs aussi. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. Le contexte, c'est qu'on faisait un stage dans le sud en début d'année. Le souvenir que j'avais un peu avant, le plus loin, c'est qu'on s'était regroupé après un rond-point, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus loin. Et c'est le dernier souvenir que j'ai. Et puis après, moi, c'est moi qui étais un peu plus loin derrière eux. Et donc, il n'y a personne qui m'a vu tomber, il y a juste une dame qui m'a vu tomber un peu loin, elle était en voiture. Mais pile au moment où j'étais seul. Et un peu plus tard, j'ai voulu repasser à l'endroit où je suis tombé. J'étais passé en voiture pour voir s'il y avait des choses qui me revenaient, mais rien. Comme j'ai fait, il y a eu un trauma crânien en plus, mon crâne il a tout cassé. Et puis ils m'ont opéré, j'avais du sang dans le cerveau apparemment, enfin tout ça. Et donc après les seuls souvenirs que j'ai après, je me souviens pas spécialement des médecins qui me parlaient ou quoi, mais je me souviens de mes hallucinations en réa, c'est tout. Tout le temps, je bougeais jamais, j'étais toujours assis dans un fauteuil ou quoi, une chaise ou et des gens passaient à côté de moi ou j'étais un peu soumis à ce qui se passait autour de moi. C'est le seul point commun un peu de mes cauchemars hein. ou que je suis spectateur de choses que je comprends pas.
Max a été accidenté, une fracture aux premières cervicales en fait, qui normalement ne pardonne pas, qu'ils ont réussi à récupérer, mais avant d'opérer, ils nous ont dit s'il y a un vrai risque. Donc est-ce que vous voulez le faire ? Donc la question c'était est-ce qu'on souhaite que Max continue à vivre ou pas ? Enfin c'était ça les questionnements hein, du jour même, du soir même quoi. Donc voilà.
Ce que j'ai vécu, ce qu'on a tous vécu autour de cet accident, c'était le plus difficile, c'est cette impossibilité de savoir qu'est-ce qui va rester en fait de notre enfant. Au moment de l'accident, en fait on pense toujours aussi qu'un accident on se répare. On n'est pas confronté, quand on est confronté à l'accident, soit voilà, il y a la mort ou il y a la réparation. Et puis après, on se dit, ça va être comme après. On n'est pas préparé, en fait. Et donc, c'est un grand inconnu de savoir ce qu'on va pouvoir garder de la vie qu'on avait avant. Et c'est toutes ces questions et puis l'absence de réponse. Et donc, une angoisse énorme, en fait, oui. Je ne sais pas si c'est différent pour le père, mais j'ai ressenti de la souffrance, une vraie souffrance dans mon ventre. Ouais, ça a été une souffrance physique, vraiment. Et je ne sais pas tellement comment le dire, parce que... Mais on ressent dans son propre corps l'accident. Enfin, ça fait pas mal, mais on est pris au ventre. Ouais, c'est une expression qui est juste, qui est vraie, au sens littéral.
Pendant les premiers jours, on allait le voir à l'hôpital. Il ne réagissait pas. Hein. Il était dans le coma et tout. Et puis nous on lui parlait quand même parce que ça nous faisait surtout du bien à nous. Et pour essayer de le rassurer, s'il entendait quelque chose, etc. Puis c'est là où moi je lui avais dit si je dois te porter en haut du Mont Blanc, je le ferai quoi. Parce que là tu dis des trucs complètement irrationnels mais qui te font du bien, qui te font rêver, voilà. Pour essayer de se rassurer en disant qu'il n'y a pas tout qui a basculé justement, on va pouvoir continuer un peu à faire les mêmes choses qu'avant, etc.
Quand j'ai su que effectivement, comme mon fils Léo, quand j'ai su que le crâne était touché, pour avoir vécu quand même 4 années assez difficiles avec mon père, traumatisé crânien, moi, très rapidement, j'ai été dans la réflexion sur est-ce que ça vaut la peine de poursuivre la vie de Max, est-ce que ça vaut la peine d'opérer, etc. Et donc, à convaincre, enfin en tout cas déjà moi, me positionner là-dessus, puis à convaincre Léo, Anne... sur la nécessité peut-être de produire un écrit destiné au médecin. Et très rapidement, j'ai rencontré le médecin, j'ai demandé à le voir sur ce sujet-là, sur ce sujet de l'obstination, enfin de peut-être de la pertinence de ne pas continuer si les lésions cognitives, cérébrales étaient trop importantes. Ça a été très vite mon questionnement. À l'hôpital, mais ça, c'est d'expérience, ils choisissent pas, enfin ils choisissent la vie, point. C'est leur boulot, c'est le pari de la vie, en fait, entre guillemets, presque à quelque prix que ce soit, c'est leur travail. C'est-à-dire que s'ils se posent, eux, la question en permanence, ils arrêtent le boulot, ils ne peuvent plus opérer. S'ils savent l'étendue des séquelles, ils vont dire... Ils ne peuvent pas se poser de questions. Ça rendrait leur métier impossible, je crois. J'ai posé la question au médecin en disant... Enfin, j'ai posé le truc au médecin en disant si les séquelles sont trop importantes, si Max n'est pas en état d'avoir les relations sociales, s'il n'est pas en état de retrouver le langage et la mémoire, je pense que ça ne vaut pas la peine. Ce qui m'inquiétait plus, c'est le trauma crânien. Parce que je l'avais vécu avec mon père et que j'avais vu les dégâts formidables que ça peut faire, même un léger trauma. Et comme je ne savais pas encore comment ça allait se passer. Et donc, avec cette perspective-là, moi, j'avais expliqué au médecin, et j'avais écrit, et j'avais fortement insisté auprès de Léo et de sa mère, qu'il n'y avait pas forcément nécessité à prolonger l'expérience, la vie, Max, ta vie. Si les séquelles étaient trop importantes, les séquelles cognitives, quoi.
En fait, on a écrit une lettre quelques jours après l'accident en sachant que le cerveau était très touché, et connaissant le traumatisme qu'avait eu notre grand-père, qu'il avait laissé dans un état totalement différent, et c'était plus, il était plus lui-même, là c'était bien pire encore, et on s'est mis à la place de Max, moi en tant que frère, mon père en tant que père, voilà, et maman aussi, et en se disant, est-ce qu'on aura envie de vivre comme ça, quoi. Et donc, moi j'ai écrit une lettre, on a tous écrit la lettre, on l'a signée, on l'a réfléchi ensemble, que si ça devait m'arriver, je désirais pas continuer à vivre, en fait. C'était très critique, et du coup, on a écrit cette lettre pensant qu'elle serait utile le moment venu, s'il y avait lieu de décider s'il devait continuer à vivre ou pas. À l'heure où, enfin, au moment où on l'a écrite, il était encore dans le coma, et il allait probablement se réveiller, mais on n'était pas sûr, et elle aurait été mise en action un peu plus tard. Mais les médecins nous disaient, dans les premiers jours, il faut pas aller trop vite en besogne, il faut pas faire de jugement trop hâtif, il faut le cerveau est plastique, enfin plein de trucs qui rassurent. Et bon, il s'avère qu'ils ne sont pas trompés, ils font bien leur boulot, mais nous on était très très pessimistes en fait, aussi par rapport à voilà, aussi ce que disait notre père, quoi, avec l'expérience qu'il a eue de son propre père avec l'accident. Donc on a un peu transposé ce qu'on pensait connaître à ça, puis le diagnostic était effectivement très mauvais, donc voilà. Mais les médecins disaient, voilà, il y aura encore des choses possibles, justement. On est là à parler de vie, de mort, dans une situation, on a l'impression que c'est un tunnel, en fait. Tout va à la fois très vite et très lentement, il se passe pas grand-chose, mais... Et puis tu te mets à écrire une lettre pour décider ou pas d'ailleurs de la vie de ton frère. Enfin c'est complètement fou, quoi. Mais c'est ce qui nous avait paru nécessaire. Et moi je regrette pas d'avoir écrit cette lettre, mais ça fait quand même réfléchir après là. Parce que bah, si le médecin nous avait écouté, bon, de toute façon, il n'avait pas forcément le droit, mais on n'est pas passé loin de perdre Max définitivement, quoi. Et ça, c'était... En y repensant, quand même, j'y pense encore. Je me rappelle plus du tout de ce que j'ai écrit, par contre. Je ne sais pas si j'aimerais remettre la main dessus.
Je l'ai écrite aussi. C'était très important. On a été... toujours, et on l'est encore, en consensus tous ensemble. C'est-à-dire que les décisions autour de Max, malgré le fait qu'on ait des familles divorcées, on les a toujours prises ensemble. Et encore aujourd'hui, par exemple, le fait de vendre la maison de famille, c'est une décision que j'ai prise avec l'accord de tous, même si la maison, maintenant, elle est à moi. On a toujours pris les décisions ensemble, et celle-ci, elle devait être prise ensemble, sinon elle perdait sa portée. En revanche, et je remercie François de l'avoir fait à l'époque, c'était une démarche qui était très... qui pouvait présenter cette famille de manière très négative par rapport au corps médical. On a été un petit peu... ouais, c'est... pas évident, hein, quand même. On est dans une douleur immense. Et puis, il faut dire ça aux médecins, qui sont pas là pour ça non plus. À la fois, ils vous disent c'est pas votre décision, donc c'est nous qui la prendrons, et on la prendra en notre conscience. Et enfin, en gros, vous ne faites pas de soucis, on ne vous donnera pas, on vous laissera pas un légume. C'est terrible, mais ce que je dis. Mais on, à juste titre, on ne peut pas ne pas être partie prenante de cette décision-là aussi. Et je pense que François a eu raison de nous... C'était très dur, on aurait pu aussi mal le prendre à ce moment-là. Je crois que c'était absolument nécessaire et je suis pas sûre que dans ces conditions-là, je faisais totale confiance au médecin. Totale confiance pour la vie, mais pas pour la mort, non. Je suis pas sûre, justement. Donc, c'était très violent. C'était encore beaucoup de violence sur la violence déjà de l'accident, mais c'était nécessaire.
Mais ils nous ont convaincus que ça valait la peine, en disant qu'à leur avis, les conséquences cognitives n'étaient pas si importantes que ça, qu'on n'était pas à se poser la question de cette façon-là. Et donc, on a dit bingo. Enfin, c'est affreux hein, de jouer comme ça, mais on a dit, ok, on y va, quoi. Le sujet n'est pas arrivé sur la table jusqu'au bout, en fait. Et après, très rapidement, on s'est rendu compte que ça jouait, ça marchait, quoi. Quand Max lui a porté... Pour moi, l'élément, la bascule, c'est bête, mais ça a été l'accordéon. Quand Max jouait un petit peu d'accordéon une fois tous les 6 mois, mais c'est-à-dire comme moi, c'est-à-dire très mal, j'étais apporté à l'accordéon et Max s'est mis à jouer pas plus mal qu'avant, le même morceau qu'avant, le seul qu'il connaissait, et je me suis dit c'est bon quoi. C'est-à-dire s'il arrive à faire ça, les séquelles, ça va. Ça, c'est... Et là, à partir de là, ça fait une bascule, un déclencheur qui fait qu'il faut y aller, il faut foncer quoi.
C'est pas grave. Mais Guillaume, ouais. Regardez. Attends, je t'enregistre. C'est pas grave. Prends un peu d'air, ouais, vas-y. C'est un symbole, Max, le branle-poumon. Ça s'appelle un branle-poumon.
Oui.
Crash, tranquille, je tiens l'appareil.
C'est pas grave. Je me dis, ça se trouve. Si la vie du médecin avait été un poil différent ou quoi, je serais plus là parce qu'il m'aurait débranché. C'était lucide dans la situation. Je pense que j'aurais réfléchi pareil qu'eux, je pense. Je suis quand même bien content d'être là.
Je vois Max pour la première fois depuis son accident en mai, après un coma de plusieurs semaines. Les visites étant fortement réduites, j'ai l'impression de voler de ce temps si précieux à ses parents et à son frère, qui depuis 4 longues et éprouvantes semaines attendent patiemment leur tour, à raison d'une courte visite, tous les 3 jours en moyenne. Max et moi, en 2020, nous nous connaissons depuis un peu plus de 2 ans. Ce tête-à-tête m'impressionne. Trouver les mots, quels mots ? Oser toucher sa main ou conserver cette retenue du geste qui est plutôt notre registre habituel ? Avec Max, on ne s'est jamais tapé dans le dos. Notre relation se construit patiemment depuis que j'ai rencontré son père. Et si elle s'affirme au fil des mois, une pudique mais affectueuse distance est toujours de mise. Je réalise que mes réflexions sont bien minuscules à l'aune de la situation. J'entre. L'image est gravée dans ma mémoire. Seul ton visage émacié, fragile, tragique, émerge d'un océan de draps dans lequel tu as littéralement disparu. Un écheveau de tuyaux, tubes, perfusions ont fait intrusion dans ton corps éthique. C'est si violent que d'instinct tu les refuses et les arraches régulièrement à l'aide de tes faibles ressources. Ta voix est faible et ténue, recouverte par les alarmes incessantes, les bips continus, les claquements métalliques des chariots de contrôle et les irruptions frénétiques des équipes dans ta chambre. Il me faut coller mon oreille à ta bouche pour comprendre les quelques mots que tu prononces péniblement. Tu as des hallucinations. Tu divagues, mais je t'entends. Je trouve et prends ta main, et les mots sont superflus. Je suis bouleversée.
Premières impressions, quand je me suis un peu réveillé, un peu émergé du coma, je comprenais rien, puis j'étais encore un peu dans les vapes. Et puis, avec la tête qui fonctionnait à moitié, j'étais allongé dans un lit, je comprenais rien. Puis je me touchais le corps, je comprenais pas pourquoi je me grattais, j'avais pas mal, je pouvais me gratter sans m'arrêter. C'est tout ça d'incompréhension Début, j'étais sous morphine ou quoi, un truc comme ça, mais j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait mis ma tête à moi sur un corps qui fonctionnait pas. En fait, il m'a fallu des mois pour comprendre ce que c'était, ce qui m'arrivait vraiment, et que j'allais pas remarcher. J'ai pas de souvenir d'un médecin qui m'ait dit voilà, tu vas pas remarcher. Il y a aussi le fait que les médecins, ils attendent un délai de quelques mois pour voir s'il y a la récupération qui arrive ou pas, avant de se prononcer en général. À l'hôpital, quand on me parlait de la rééducation, je me suis dit, ils vont me montrer les exercices à faire, et puis moi je vais voir pendant 1-2 jours ce que ça donne. Après je rentre chez moi, je le fais. Je refais les exercices, après je remarcherai. Mais je me rends pas compte de ce que c'est en fait la rééducation. C'est apprendre à gérer l'incontinence, apprendre les transferts, à se déplacer en fauteuil, reprendre du muscle un peu, parce qu'en réa, on perd. J'avais perdu au moins 10 kilos, je sais pas. Et la rééducation, c'est ça en fait. Puis on est tellement loin de savoir ce que c'est en fait quand ça nous arrive. Moi je me disais, on m'a dit que j'allais aller dans un bon centre de rééducation qui était spécialisé. Moi, quand j'entends ça, je me dis, ah, ils ont des super machines, ils vont me faire remarcher. C'était ça, les... Donc après, une fois en rééducation, c'est un peu dur de voir qu'il n'y a rien qui... Il y a rien qui revient, il n'y a pas de sensibilité qui revient. Quand on est en rééducation, on espère tous la récupération. Il y en a qui récupèrent un petit peu, plus ou moins... la plupart, enfin d'autres zéro, moi zéro, ceux avec qui j'étais à peu près zéro aussi. Moi dans mon cas, c'est assez variable, mais dans mon cas à moi, c'est je marche pas, mes jambes marchent plus. C'est ce qu'on voit parce que je suis en fauteuil, mais après il y a pas mal d'autres soucis aussi sur les sphincters qui marchent plus, le transit, la sensibilité, j'ai plus aucune sensibilité à partir de la poitrine. Donc c'est ça, c'est le fait de ne plus avoir d'abdos non plus. Mon tronc tient que par le dossier, sinon je suis un peu en équilibre, je peux perdre l'équilibre en avant, en arrière. C'est ce genre de choses, et puis c'est découvrir un monde un peu parallèle. J'avais lu une fois quelqu'un qui disait ça, qu'avec le handicap on arrive dans un monde parallèle. Quand j'avais lu cette phrase, qu'on arrive dans un monde un peu parallèle, t'es aussi dit qu'on quitte un monde. Il y a un peu tout le monde qui nous regarde quand on est dans la rue ou quoi. Après, maintenant, je crois que je m'y suis fait à peu près. C'est aussi pour ça que j'aime bien aller à Lyon dans la grande ville, parce que les gens sont tous des inconnus. Et donc, peu importe ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, je m'en fous un peu.
Moi, je me rappelle d'une scène terrible. Franchement, c'est très compliqué d'en parler encore, parce que c'est après la rééducation. Les travaux avaient été faits à la maison, hein, mon père il a fait le nécessaire, donc l'ascenseur, tout ça. Et puis on a donc c'est l'ancienne maison qu'on avait. On a un petit belvédère, on va dire, comme ça, un établi qui donne sur le jardin en haut. Puis en face de ce jardin, il y a les montagnes. Puis Max commençait à aller à fond en montagne, faire des marches et tout. Et puis là, on arrive les trois avec mon père. Et plutôt que de prendre direct l'ascenseur, Max, il va face aux montagnes. Et là, on s'effondre les trois, en fait. Parce que là, on se rend compte de tout ce qui est plus possible, quoi. Et puis ça, c'est dur, ouais.
Et Max, il est rené après l'accident. Vous savez, je ne sais pas si ça a été expliqué, mais il a réappris à respirer, il a réappris à manger, il a réappris à parler. Donc, il a refait toutes les étapes du bébé, de l'enfant. Et comme mère, c'est exactement aussi cet accompagnement-là. Ouais. Ça tient vraiment à ça. C'est un grand bouleversement dans la vie. On a tous changé de vie, en fait, avec l'histoire de Max. Sur différents plans. On a gardé aussi nos fondements, certains, mais notre vie a explosé. Hein, moi j'ai eu mon énergie pour maintenir la vie autour de lui, mais ça ne nous change pas complètement non plus. J'ai gardé un message qui nous avait donné le médecin réanimateur dans les tout premiers temps. Il nous avait dit, il faut que si Max revient à la vie et revient dans votre famille, il faut qu'elle soit toujours d'aplomb. Et comme la famille qu'il a quittée juste avant l'accident. Donc, quelle que soit la durée de l'attente de ce retour, il ne faut pas que vous ayez tout changé, tout explosé dans votre famille. Donc, ça m'a beaucoup tenue aussi dans la période qui a suivi directement l'accident et puis aussi après, de dire ben, il faut conserver qui on est, ce qu'on est. Et c'est pour ça que je ne crois pas être différente d'avant. Et je ne pense pas que, d'ailleurs, Max aimerait avoir des parents différents, finalement. Sauf que, ben voilà, c'est moins... On sait que ce ne sera pas que l'enfant, il aura... D'abord, il est adulte, donc il faudra lui donner plus vite sa place et se mettre en retrait. Donc, réapprendre aussi à se mettre en retrait comme mère, ça a été très difficile aussi, ouais. Et ça veut dire lui faire confiance, savoir que d'être inquiète en permanence, mais de ne pas être présente, de laisser la distance pour qu'il vive sa vie de jeune homme et d'homme, comme il a le droit de l'avoir, y compris avec son handicap aujourd'hui. Donc, de ne pas être là, vous voyez, je suis arrivée, je vais repartir, et puis je lui dis, tu voudras venir quelques jours avec nous ben non, je préfère être avec mes potes. Ben oui, ok, t'as raison, va avec tes potes, mais moi, je suis bien quand je suis avec lui, mais voilà.
Rapidement, il y a eu du soulagement, en fait, parce qu'on avait peur que ce soit bien pire. Après, il y a eu beaucoup d'autres questionnements qui se sont amenés, et je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce que ça va changer notre relation, est-ce que ça va changer notre vie, tout simplement, parce que... Il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on peut pas faire ou qu'on peut faire mais différemment. Et j'avais peur que, je sais pas, que même moi, je me retrouve à, je sais pas, même abandonner Max ou d'une manière. Enfin, c'est des questions que je me suis posées en vrai. Et je suis content parce qu'au final, c'est des peurs que j'avais, mais qui sont jamais réalisées et ça a jamais dû me forcer ou quoi. Ça a toujours été très naturel et au final, notre relation s'est adaptée toute seule, en fait. Et je pense que c'est un soulagement, en vrai, de réaliser ça maintenant.
C'est Louis, il a toujours été là. Ça commence à faire très longtemps qu'on se connaît. Je crois qu'on devait être en cours dès la primaire ensemble. Mais on est surtout devenus potes au collège, à partir du collège. On était tout le temps ensemble, à chaque récré, pas forcément dans la même classe, mais dès que c'était la récré, on se retrouvait. Au lycée, on n'était pas dans le même lycée, mais on a continué à se voir de temps en temps en début de lycée et après tous les week-ends. On faisait toutes nos soirées ensemble ou à faire des conneries dans la ville, on se baladait dans la ville, on grimpait dans les grues, des trucs comme ça. Et puis après, on a continué à la fac, à Lyon, ici.
On a découvert la vie d'adulte ensemble, un peu. C'était chouette. Moi, à cette époque-là, j'étais en prépa, du coup, des études bien intenses. Et souvent, la semaine, on sortait dans des bars à Lyon, ou même... se poser sur les quais, c'est des choses qu'on fait encore d'ailleurs.
Chez soi, plus chez les parents, ouais. D'avoir notre appart et tout, de pouvoir sortir quand on veut, d'inviter du monde à la maison, de faire des soirées, de faire nos courses, des trucs comme ça, puis de passer du temps avec des potes, c'est ça. Ouais.
On parle plus des problématiques pratiques. Genre, ouais, aller faire les courses, aller prendre le transport. J'ai jamais eu de copine avant l'accident. Et pourtant, il y a des filles qui m'ont plu, mais je sais pas, ça a jamais marché. Et le handicap, ça rajoute un frein. J'ai toujours galéré. Donc je galère encore un peu plus, mais on en parle de temps en temps. Mais...
Du coup, Théo, copain de Max d'enfance, c'est aussi un sujet où on a mis du temps à en parler ensemble, je trouve. Enfin, les premières fois on est venu te voir, c'est pas un sujet dont on parlait, en fait. On réfléchit pas spécialement qu'en fait, quand on est paraplégique, ben, même au niveau du sexe, ça fonctionne plus comme avant, en fait. Et ça, c'est vrai que... Bah, il a fallu quand même qu'on se voit quelques fois avant de parler de ce sujet et de se rendre compte que ça avait un impact aussi là-dessus. Bah, comme on en parle, c'était autour d'une bière encore, je crois. c'était dans un bar, on discutait de, bah, en fait, des impacts quoi, d'être paraplégique. Donc là, c'est déjà quand même un petit moment après l'accident, hein, parce que ça voulait dire que bah, Max était en fauteuil, on avait pu aller dans Montpellier, on était allé... Voilà, dans un bar dans Montpellier, et puis on se posait des questions de « mais en fait, ça fait quoi ? Enfin, tu ressens plus quand on te touche sur le corps ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à aborder la question.
Mais je comprends leur question, parce que c'est pas si c'est de la curiosité, mais on a envie de savoir aussi toutes les facettes du handicap, on se demande comment ça se passe. Et donc moi, leurs questions, je les comprends, ça me gêne pas plus que ça, je crois. Mais bon, c'est pas non plus un sujet qu'on parle tout le temps. Hein. Parce qu'aussi, il évolue pas beaucoup.
Moi, en fait, c'est l'affection, la sensualité, la présence d'une personne. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans ma propre vie. Donc, c'est plutôt ça. C'est ce qui touche autour du fait que, en tant que personne en fauteuil roulant, ben, voilà, être accompagné, avoir quelqu'un avec soi, c'est pour la personne... Moi, je considère... Bien sûr, je me dis qu'on peut et on va tomber amoureux de Max, mais c'est quelque chose qui n'est pas, de loin, pas évident. Donc, c'est plutôt ça que je lui souhaite ardemment, d'avoir une compagne ou un compagnon de vie.
Au tout début de l'accident, quand Max est revenu en Haute-Savoie, j'étais en relation avec un gars beaucoup plus âgé, qui doit avoir 65 ans et qui a plus de 40 ans de fauteuil, et qui, pendant 40 ans, n'a pas eu de soucis de santé, ce qui est franchement assez remarquable. Ça veut dire que le gars, il se débrouille bien. Et j'avais proposé à Max, après 2-3 échanges, ça me paraissait intéressant qu'ils discutent tous les deux ensemble au téléphone, le gars. Et le gars a évoqué cette question de la sexualité avec Max. En lui évoquant le fait que la sexualité, c'est pas les films porno, c'est pas... Alors, il le disait dans des termes très crus, hein, que je sais pas ce que ça donnait dans... pour Max d'entendre ça de cette façon-là. Mais il y allait franco, le gars, en disant « Faut pas imaginer que tu vas faire beugler quelqu'un pendant 1h30 sur une machine à laver, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on attend de toi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça. » Et je pense que c'était important de le dire, que ce soit quelqu'un en fauteuil avec une grosse expérience et aussi pour lui dire, enfin, pour lui montrer la piste, en fait. Hein. Après, je sais pas ce que Max en a retenu de ça.
Ah, j'allais dire, t'aurais pu aller chez le coiffeur, mais... Non, mais moi, je suis rassuré, quoi. Moi, je sais que même si t'as pas besoin de nous, en fait, enfin, t'as jamais eu besoin de nous vraiment, mais t'as ta vie, tes couteliers, c'est bon, quoi, c'est reparti, quoi, enfin. Ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a eu une petite cassure et il a fallu un redémarrage un peu... Un peu long, mais ouais, j'ai été aidé par des personnes qui étaient super, que j'ai rencontrées, et surtout j'ai rencontré surtout quelqu'un qui était en fauteuil depuis une vingtaine d'années, un peu par hasard, et qui m'a montré la vie qu'il avait, et que il avait une vie assez incroyable, en fait. Il s'appelle Thomas Koenig, il fait des archets de violon, donc il a un travail manuel. Moi, ça me parlait déjà pas mal. En plus de ça, il faisait du parapente. Il m'a dit qu'il n'avait jamais fait de parapente avant d'être en fauteuil et qu'il m'a appris qu'on pouvait faire du parapente en fauteuil, je ne savais pas. Alors que le parapente, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment déjà avant, mais je m'étais jamais lancé. Et donc il m'a dit qu'on pouvait faire ça. Et il m'a aussi montré qu'il avait un fauteuil un peu particulier qui lui permettait de continuer à aller, à pouvoir aller sur des chemins, des chemins faciles, mais de pouvoir sortir de la ville et du goudron. Et pour ça, il m'a beaucoup aidé pour ça. Et je me suis dit, ouais, c'est, ça doit être possible en fait, de vivre une vie différente, mais qui a l'air sympa quand même. Quand je le voyais, je me suis dit, ouais, sa vie a l'air cool.
Il y a quand même des trucs qui vont être possibles, quoi. Et bon, ça, faut lui demander à lui, mais il a fait des trucs super chouettes les premières années, là. Enfin, mais il faut faire gaffe aussi au discours, de dire, ouais, bon, bah, voilà, il y a des gens qui ça peut être un discours qu'on entend, c'est il a eu cet accident, puis du coup ça lui a permis de faire plein de trucs. Ça, c'est une grosse connerie. Parce que il serait bien plus heureux debout à faire les mêmes activités. Ouais, ça reste dans la tête, ouais, c'est clair. Et puis dans la mienne, elle occupe une place toute petite, mais dans la sienne, tous les jours, toutes les nuits, enfin voilà. On n'en parle pas assez, non. On n'a jamais été comme ça. Je sais pas si on le deviendra un jour, mais on fonctionne comme ça, mais on pourrait s'améliorer sur ce point, ouais.
C'est vrai qu'on discute pas de tout ce qui me manque maintenant, enfin de tout ce que je peux plus faire. C'est aussi que si on commençait à discuter de ça, on s'arrêterait plus, on pleurait tout le temps. Moi, je préfère, dans ma tête, j'y pense pas. J'ai arrêté de penser à ce que je pouvais plus faire parce que mes activités ont changé. Et ouais, je fais des choses différentes. C'est sûr que tous mes souvenirs de tout ce que je faisais avant, ça me manque, et puis c'est des souvenirs incroyables, mais petit à petit ils s'éloignent un peu. Et je cherche pas à revenir dessus.
Colère contre qui, ouais. Si on était croyant, tu peux te dire qu'est-ce qu'il fout l'autre là-haut là. C'est pas le cas, donc. Bien sûr, tu te dis pourquoi ça nous arrive à nous. J'ai pas ressenti beaucoup de colère, je crois, juste la tristesse en fait.
Ce qui me rend triste, c'est la peine qu'ont dû avoir mes proches. Ça, c'est la peine que j'ai fait à ma famille. C'est ça qui me fait le plus mal, ouais, je crois. Moi, maintenant, ça commence à être loin. Donc, puis ils m'ont toujours dit que j'avais pas la moindre peine à avoir pour ça, parce que j'y pouvais rien. Mais ce qu'ils me répètent ça, c'est ce qui me faisait du mal de les imaginer à leur place. De voir un peu d'un point de vue extérieur, de les imaginer dans ma chambre et moi dans mon lit. C'est ça qui me... Ouais. C'est ça qui m'attriste, ouais.
En fait, souvent, ça m'arrive souvent la nuit de rêver que tu te remets debout. Et je t'ai jamais demandé, mais en fait, est-ce que toi aussi, tu... À quel point, en fait, c'est... Tu disais que tes souvenirs, ils s'éloignent petit à petit, puis tu prends pleine possession de ta nouvelle condition. Mais moi, des fois, je me réveille en sursaut. Je me dis, putain, ouais. J'ai rêvé de Max, il était debout quand on marchait, on allait faire une balade dans la forêt, quoi.
Dans mes rêves, je remarque pas spécialement que je marche ou que je suis en fauteuil, mais je me déplace ou différemment, un peu. Enfin, je t'avais raconté le rêve où on était tous les deux sur un kayak, sur le lac de Côme, ou par là. Et on se déplaçait comme ça. Après, on prenait le train, on se déplaçait en train. Ou alors, des fois, je suis immobile dans les rêves où il se passe des choses autour de moi, mais moi, je bouge pas spécialement. Et une autre fois aussi, j'avais rêvé que j'étais à Thiers. Et je me déplaçais, j'étais en fauteuil, mais je pouvais prendre les escaliers, j'arrivais à monter les escaliers, à me déplacer dans la ville, à truquer tout en pente, à marcher, enfin aller partout où je voulais, sans la moindre gêne, alors que j'étais quand même en fauteuil, mais je pouvais aller où je voulais. J'étais plus la contrainte des marches, de tout ça. Et c'était cool. Mais... Je rêve pas que d'un coup je vais me remettre à marcher, que je fais pas de rêve comme ça.
Donc là on parle des rêves quand on dort, mais si... C'est quoi ton rêve ou tes envies pour la suite?
Moi ça peut revenir avec ce que je disais avec Théo tout à l'heure, moi ce qui me manque c'est une copine. Parce que sinon, la vie que j'ai maintenant, elle me va bien. Et après, il y a un petit truc que j'aurais toujours envie une fois dans ma vie, c'est me rendre compte que je suis incomplet, que je suis paraplégique, mais incomplet. Par exemple, que je vais sentir mon doigt de pied, ou quelque chose comme ça, parce que le fait d'être incomplet, ça permet d'envisager une récupération. Et c'est toujours un truc qui trotte un peu loin dans le cerveau, parce qu'on sait que ça arrivera jamais et que c'est pas un truc à quoi il faut se raccrocher, parce que ça n'arrivera jamais. Mais c'est un peu un rêve de... Un matin, je me réveille et je sens un doigt de pied. Ça serait fou, mais... Enfin, faut pas... Je réfléchis... Ouais, voilà. Ouais, peut-être que je sais pas trop si je protège un peu ma famille. C'est aussi que moi pour moi, je préfère me concentrer sur les choses qui me plaisent, chercher à voir du monde, à voir mes potes, à aller boire des verres avec eux si c'est ça qui est cool. Et faire des choses qui me plaisent plutôt que... Et pour ma famille, c'est pareil, je préfère discuter de choses sympas que discuter des problèmes. Je pense que ça nous ferait plus de mal de discuter de ça, puis j'en ai pas spécialement envie, je préfère dire ce qui va bien.
Bah moi je pense que... Avec des situations comme ça, des accidents pareils, tu parles de tout avec tout le monde, les médecins, les gens qui viennent te voir tous les jours, t'es jamais tranquille. Ta famille te demande comment ça va, comment il va ton frère, comment tu vas, et tous tes potes qui font la même chose. Puis en fait, t'es jamais tranquille, t'as plus de jardin secret, quoi. Enfin, mais... c'est pas non plus une solution de tout garder pour toi, parce que c'est qui ton épouse émotionnelle à part toi-même, quoi. Quand t'as un problème, ça veut dire que tu dois être de marbre et hyper costaud, mais t'accumules tout. Si c'est pas vers ta famille, peut-être c'est vers tes potes, ou j'en sais rien, mais faut lâcher aussi, quoi, aussi un peu.
Ben, peut-être qu'un jour je craquerai, je sais pas, mais... Pour l'instant, mon équilibre va comme ça. Je sens pas quelque chose qui monte à l'intérieur. Enfin, j'ai pas de rancune ou d'énervement qui augmente, je crois pas. C'est un peu toujours pareil, mon moral qui est assez stable. Depuis toujours, j'ai pas de très haut ni de très bas. Je vis comme ça, je crois.
Il y a le fait de me pousser sur les roues pour aller chercher la voiture, c'est dur, c'est un effort. Le fait de devoir prendre trois fois ses sacs pour descendre les poubelles, parce qu'il peut prendre qu'un seul sac à la fois. Le fait de pousser chaque porte qui résiste. Le fait de se mettre en déséquilibre parce que quelqu'un l'aura poussé un petit peu trop fort ou qu'il n'aura pas anticipé le geste comme il faut. Voilà, c'était juste pour décrire toutes ces petites choses qu'on ne voit pas quand on n'est pas dans le handicap et que lui sait, lui connaît. C'est que la vie n'est pas facile quand même, ouais. La vie est difficile. Et puis il y a aussi tout l'environnement, les choses matérielles. Enfin, là, je décrivais les difficultés de son corps, mais il y a aussi toutes les difficultés très pratico-pratiques dans la rue, tout ce qui touche à l'accessibilité. C'est un vrai combat parce que quand on est confronté même quand on veut faire le mieux possible et le mieux du monde avec toutes les meilleures intentions, on voit qu'il y a plein d'écueils en permanence. Donc voilà, la vie, elle est cachée derrière, la vie difficile, elle est cachée derrière ce beau sourire et ces beaux yeux, mais c'est pas pour ça qu'elle est simple, de loin pas. Donc pour une mère, c'est difficile.
Je voulais absolument éviter le scénario du petit handicapé que papa et maman poussent dans les rues ou de campagne ou de ville, peu importe. Enfin, ça m'obsédait en me disant je refuse d'avoir ça comme objectif. Donc on va viser l'autonomie totale. Puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. C'est pas le retour à la maison. Enfin, Max était autonome avant l'accident. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas après. Donc je crois que ça a été le cap qui fait que ouais, je crois que j'ai fait ma part un petit peu quand même, je pense, là-dedans. Moi, j'ai un rapport à la famille un peu distant. Moi, peu importe, je suis un enfant de la DAS, j'ai été adopté, abandonné, ce qui fait probablement un peu de distance. Et donc, du coup, pour moi, la solution n'est jamais la famille. Enfin, je crois vraiment, la solution n'est pas, en tout cas pas la famille dont on hérite, la famille qu'on crée, pourquoi pas, mais pas celle dont on hérite. En tout cas, les parents ne sont pas une solution, même si c'est un plaisir, etc., mais ce n'est pas une solution. Et je ne voulais pas de ce scénario-là. Et puis après, la mère de Max et de Léo, elle, dans leur famille, il y a eu un rapport handicap fort, important, enfin, avec le frère de Anne qui est handicapé, et avec un scénario où il y avait une forte dépendance de cet oncle de Max vis-à-vis des grands-parents. Mais en tout cas, toute sa vie, il a été scotché à papa-maman, d'une certaine façon. Et moi, ça me terrorisait. On était séparés avec la mère de Max, mais je voulais pas que ce scénario se mette en place. Ouais, c'est presque pathologique chez moi, peut-être. Hein. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était essentiel d'éviter ça. Je voulais absolument... Je voyais pas de raison, malgré l'évidence, je voyais pas de raison que Max, qui avant l'accident était autonome, vivait sa vie, et venait pas nous voir particulièrement, enfin, sauf pour faire des affûts de photos, etc. Mais je voyais pas de raison pour lesquelles il ne serait pas en état d'être encore aussi autonome et aussi indépendant et pas scotché à vivre avec papa ou maman. Et c'est un sujet sur lequel je pense, en tout cas au démarrage, on a été un peu distant, ouais, en tout cas très différent là-dessus. Et moi, je voulais tellement pas du scénario de papa ou maman qui pousse son petit garçon dans les rues en Haute-Savoie. Moi, ça m'angoissait un peu, ça, en me disant, mais moi, je voulais vraiment que Max fasse un métier où, en fait, les gens n'achètent pas ce qu'ils fabriquent, par exemple, en disant, oh, le pauvre petit handicapé, il faut l'aider, ah, tiens, on va lui prendre un petit truc, ça lui fera plaisir, ça l'aidera. Moi, je voulais que les gens, enfin, que Max fasse un métier où il fasse quelque chose, où les gens prennent en disant, putain, c'est vachement beau ce qu'il fait, regarde, c'est ingénieux, sans voir le fauteuil roulant, sans voir l'handicapé. Et pour moi, c'était essentiel, ça. Parce que derrière, il y a la réalisation, la fierté, il y a l'épanouissement, il y a aussi le sentiment de la reprise de confiance. Et pour moi, c'était important. Deuxième chose importante, comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas du scénario où il rentre chez papa ou chez maman. Il n'habite pas chez nous, puis il a sa vie, puis il fait un boulot dont il est fier, quoi. Et quand il montre ce qu'il fait, les gens disent « c'est chouette, quoi ». Et ça, c'est pour moi, c'est gagné. Enfin,
la meilleure image qui m'a vient et qui est permanente, c'est que... même les jours de grand soleil, il y a toujours un nuage. Et chaque fois que je suis heureuse, je pense à Max. Et c'est ce petit nuage qui flotte tout le temps. Et il n'y aura plus jamais de grand beau dans la vie. Parce qu'il y a toujours une comparaison, un moment de se dire, bah là, je suis heureuse, mais lui, il n'aurait pas ça. Donc, c'est, ce nuage, il est là tout le temps, en fait. Je sais qu'il ne serait pas d'accord qu'on dise ça. Mais... En fait, c'est le mien d'horizon que je n'arrive pas à dépasser. C'est mon horizon à moi qui s'est bouché en partie. C'est-à-dire que j'espère qu'il est heureux, bien entendu, et je le pense vraiment, sincèrement. Mais quand moi, je vis des belles choses, voilà, c'est cette tristesse qui nous habite. Et puis... qui fait qu'elle occulte un petit peu les bons moments de nous. Mais ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport au regard et à cet accompagnement et à cette histoire qui nous est arrivée. C'est sa présence qui rend les choses ensoleillées et belles. Hein. Quand on est ensemble, il n'y a plus cette question du transfert, effectivement. Et plus on est loin, plus je suis inquiète, plus j'aimerais qu'il soit avec moi et que le temps qu'on passe ensemble fait que ça occulte et ça enlève ce transfert, pour moi en tout cas. Ce serait... Ouais, c'est... Des fois, je jalouse son père qui vit pas très loin de chez lui parce que... c'est un plaisir d'être avec lui et puis c'est justement être moins dans la difficulté de penser à sa vie et de l'imaginer que de... Quand on est tout près, on voit que ça va bien. Mais quand on est loin, forcément, on se fait plus de soucis. C'est comme quand on éteint la lumière. On se fait plus de mauvaises idées. Donc, voilà.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
C'était Max, une ode à la vie, lecture Christine Bernard, coordination Aurélie Charon, chargée de programme Inès Duperron, une émission d'Alain Lefkovitch, réalisée par Guillaume Balli.
Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. T'éclaire de ses phares.